Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bousculés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi, édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Serge Abad Galliardo. Ce franc-maçon qui menait une vie apparemment riche et pleine d'occupations était en fait tenaillé par un vide existentiel qu'il n'arrivait pas à combler. Jusqu'au jour où la Vierge se manifeste à lui à Lourdes et ébranle son existence. Il raconte son histoire dans un livre, « La conversion d'un franc-maçon, comment Dieu m'a arraché aux ténèbres des loges ». Bonjour Serge, merci beaucoup d'être au bout du fil.
Oui, bonjour. Je vous remercie en tout cas de procéder à cette interview.
Merci à vous de prendre ce temps alors que je crois que vous êtes bien malade, donc vous ne pouvez plus vous déplacer. Mais il est important pour vous de témoigner, je crois, jusqu'au bout de votre histoire pas banale. Alors vous allez nous la raconter, mais pour l'introduire, est-ce que vous pouvez nous présenter l'objet que vous avez choisi ?
Oui, bien entendu, Marie. Il s'agit d'un chapelet que l'on m'a offert lors de ma première communion. J'avais 10 ans et chez nous, nous sommes catholiques, mais nous ne pratiquions pas. Et c'est une amie très croyante de ma famille qui m'a offert ce chapelet auquel je n'ai accordé aucune importance, et aussi bien le jour de ma communion que par la suite. Et donc les années ont passé, ce chapelet, j'ai même tenté de m'en débarrasser puisque je n'en voyais absolument pas l'utilité. Je ne sais même pas d'ailleurs prier le chapelet. Et à chaque fois que j'essaie de m'en débarrasser, à l'époque, ce chapelet me revient. La dernière fois, c'est lorsque je l'ai donné à mon fils qui démarre une carrière de pilote de ligne afin que ça lui porte chance. Donc vous voyez qu'à l'époque, j'étais plus dans la superstition que dans la foi. Et lui me le rend au bout de quelques mois en me disant qu'il n'est ni superstitieux ni croyant. Et en fait, ce qui est très très étrange, c'est que ce chapelet m'a toujours accompagné. Voilà. Et la troisième chose qui est importante avec le chapelet, c'est que c'est à l'occasion d'une écoute tout à fait entre guillemets par hasard, parce que je ne crois absolument plus au hasard aujourd'hui, que une écoute du chapelet prié à Lourdes que j'ai été touché en plein cœur la première fois par l'amour de Marie.
Alors, vous allez nous raconter ça. C'était un événement effectivement assez inouï dans votre vie et complètement inattendu parce que, voilà, au départ, vous étiez pas croyant. Donc, moi, j'ai envie de commencer votre histoire avec l'année 1989.
Oui.
Et vous avez alors 34
oui,
ans, si je ne me trompe pas.
À peu près, oui, je crois, 34
vous êtes,
et quelques.
À peu près.
Oui.
Bon, j'ai bien calculé. Vous êtes fils de pieds-noirs marocains qui se sont installés en Corse quand vous aviez 12
c'est
ans.
C'est ça.
Et donc, 22 ans plus tard, vous avez, à force de travail et de courage, ce sont des qualités de votre famille dont vous avez hérité, vous avez décroché un beau diplôme d'architecte et même la direction prestigieuse de l'urbanisme de l'une des deux plus importantes villes de Corse, Bastia. Et donc s'ouvre devant vous un bel avenir. Et alors c'est dans ce contexte-là qu'un agent immobilier qui travaille avec vous, il vous propose de vous parrainer dans une loge maçonnique. Et vous acceptez.
Oui, oui,
alors,
oui.
Qu'est-ce que représente pour vous cet engagement à cette époque ?
Eh bien, à cette époque, bon, tout d'abord, cet homme était quelqu'un d'assez brillant, hein, d'assez sympathique, et j'avais tissé des relations amicales avec lui. Donc, ce contexte-là est important. Donc, il y a une notion de confiance qui s'est établie avec cette personne. Donc, je ne suis pas allé complètement à l'aveuglette en franc-maçonnerie. Mais pour autant, je n'ai posé aucune question pratiquement, et lui ne m'a donné d'ailleurs aucune indication. Donc je ne savais pas du tout où j'allais. Voilà, pour moi à l'époque, il s'agissait de rencontrer des personnes et de commencer un chemin qui allait m'apporter des réponses sur les questions les plus basiques que chaque personne se pose et qui ont trait à la, comment dire, à l'existence, aux raisons pour lesquelles nous sommes sur Terre et nous en avons conscience. Voilà, c'était surtout ça qui m'intéressait dans la franc-maçonnerie.
D'accord, donc ouais, on ne va pas pouvoir tout raconter dans le détail, mais vous menez une brillante carrière d'architecte, que ce soit en Guyane, à Paris, à Antibes, et aussi une brillante ascension dans la franc-maçonnerie, parce que assez vite, vous êtes repéré, vous allez monter peu à peu les grades jusqu'à atteindre les hauts grades de la franc-maçonnerie. Vous avez donc un bon réseau, vous avez de l'argent et vous vous en servez. Est-ce que vous pouvez nous dire quel genre de vie vous menez quand vous vous installez à Antibes quelques années plus tard ?
Alors, c'est une vie qu'un journaliste dernièrement a qualifiée de dépravée.
Alors... Le mot est non, fait, hein.
Il est assez juste. J'en ai un peu honte aujourd'hui, mais Dieu merci, je m'en suis confessé. Donc oui, je l'assume, c'est après tout un prédécesseur bien plus illustre que moi l'a vécu, saint Augustin. Voilà. Bon, oui, c'est une vie de dépravé, comment dire, une vie de fête, voilà, une vie de fête, une vie où on boit beaucoup, on festoie, où les femmes sont très présentes, la séduction, etc. Voilà. Et les moyens financiers, même si je ne suis pas riche, ne me manquent pas, puisque j'ai un poste important avec un salaire tout à fait correct et un poste, je dirais, presque honorifique. Voilà. Et à ce moment-là, cette vie me convient parfaitement. Alors, je précise que les francs-maçons, je ne suis pas en train de les traiter de dépravés, hein. C'est mon chemin particulier que je raconte. Mais pour autant, il faut quand même savoir qu'en franc-maçonnerie, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de notion de bien et de mal au sens où nous l'entendons, nous, les chrétiens. Et que d'ailleurs la morale, elle est contingente et elle dépend finalement de la société, voilà, et non pas de la règle divine. Voilà. Donc dans ces conditions, effectivement, on peut comprendre que je n'avais pas trop de limites à la recherche du plaisir. C'est vrai que il est arrivé un moment où cette vie m'est apparue un petit peu vide et où.
Oui, voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Malgré quand même cette vie très remplie, parce que voilà, vous travaillez quand même beaucoup, vous avez de nombreux amis, etc. Une vie belle, une vie très remplie. Vous ressentez un vide existentiel. Qu'est-ce que c'est exactement ce vide ?
Mais écoutez, je ne sais pas comment l'expliquer. Je crois qu'il manquait l'essentiel. Voilà. En fait, j'étais en train de m'enivrer. Au sens propre et au sens figuré, bien que je n'ai jamais été alcoolique, c'est pas le thème, mais vous savez, quand on fait la fête, forcément, surtout dans le sud, le pastis coule facilement, le rosé également, et j'étais entouré de joyeux drilles et de drillesse, si je peux me permettre ce néologisme. Voilà. Donc effectivement, beaucoup de sorties en bateau, beaucoup d'amis, beaucoup de sport, le travail effectivement, la vie bien remplie, voilà, j'ai pas le temps de s'ennuyer. Pour autant, il manque quelque chose d'essentiel, au sens étymologique du terme. Et je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas. À ce moment-là, je m'aperçois, et je me suis aperçu par la suite dans ma vie, que le mal est intervenu dans ma vie, à plusieurs reprises. Et c'est toujours à l'occasion d'une intervention du mal que quelque chose s'est passé qui m'a ramené vers Dieu, sans même que j'en aie conscience.
Oui, voilà, c'est assez étonnant. On lit ça dans votre livre. On a l'impression quand même qu'à un moment donné, il y a tout s'enraye, tout roulé apparemment. Mais à un moment donné, voilà, vous êtes déçu par la franc-maçonnerie qui sous couvert de grands secrets, cache quand même du vide, elle aussi. Vous rencontrez aussi des soucis professionnels, personnels.
Oui, oui.
Et ça vous amène tout ça à prier un peu, à faire des expériences de Dieu inattendues, comme un jour C'est assez fort. Vous avez des grands soucis. Quelqu'un vous a jeté un sort apparemment et du coup vous allez voir un prêtre exorciste et à ce moment-là, dans votre voiture, vous vous perdez et là Dieu se manifeste d'une manière complètement inattendue.
Oui, oui, oui. Alors c'est bien entendu, beaucoup de gens ne croient pas à la sorcellerie. Moi, je peux en témoigner parce que j'en ai été victime physiquement et j'ai la preuve. Lorsque quelqu'un vous annonce par téléphone, quelqu'un qui est à 300 kilomètres de chez vous, qu'il a eu connaissance d'un sort, qu'un sort vous a été jeté, et qu'en même temps vous avez vous des symptômes de cette sorcellerie, il y a quand même de fortes chances pour que ça existe. Et c'est à l'occasion de la rencontre avec un prêtre qu'il y a eu effectivement deux événements. D'abord, sortant de la rencontre avec le prêtre, je passe par la nef de l'église, voyant le Christ en croix, il s'est passé quelque chose. C'est assez difficile à expliquer, mais il y a eu quelque chose. Et ensuite, effectivement, je suis perdu. Et alors, comme un défi à Dieu, je dis, bon, écoute, j'ai bien compris que tu existes. Je suis un peu trivial dans ma façon de m'exprimer, mais c'est à peu près comme ça à l'époque, parce que j'ai pas beaucoup de respect pour Dieu. J'ai bien compris qu'apparemment tu existes. Voilà, bon, mais si tu existes, tu vas me retrouver mon chemin, parce que là, en pleine nuit, dans cet endroit où il n'y a pas de lumière, où j'ai pas de carte, à l'époque, il n'y avait pas de GPS, comment je vais faire pour rentrer sur... Et là, mon chemin, je suis guidé, voilà, je suis guidé, première à droite, deuxième à gauche, et je tombe juste devant l'entrée de l'autoroute. Et là, ça m'a sidéré, parce que je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose, voilà. Et en rentrant, je me souviens à l'époque, j'habitais sur mon voilier à Antibes, j'avais un très beau voilier qu'on avait équipé pour la vie à bord, et je me souviens être rentré, ma femme m'attendait avec anxiété, parce que c'était un jour de très mauvais temps. Et j'étais parti en voiture, donc j'avais fait plusieurs centaines de kilomètres. Et donc là, je rentre et je la regarde, je lui dis, tu sais, Dieu existe. et je me souviens de son regard. Et il s'est passé plus de 20 ans. Je me souviens de son regard. Je crois que si je lui avais dit, je débarque de la planète Mars, elle ne m'aurait pas regardé autrement.
Et donc, on sent que Dieu fissure peu à peu la porte de votre cœur et jusqu'à ce coup de butoir ultime à Lourdes. Alors là, c'est incroyable parce qu'il vous met carrément à genoux un beau jour à Lourdes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Ah mais oui, en fait, c'est... Comment dire J'ai résisté malgré tout. C'est-à-dire que j'étais influencé par la doctrine maçonnique. Donc oui, Dieu existait, mais... C'était une force, c'était quelque chose, c'était pas forcément notre Dieu personnel. Ceux qui s'étaient manifestés ce soir-là, on pouvait l'appeler le Christ, Dieu, ce qu'on voulait, mais finalement, c'était une instance supérieure, voilà. Et je faisais pas encore le lien avec le Dieu que j'avais connu étant enfant et pendant ma communion. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais à Lourdes et préalablement, j'entends cette prière du chapelet en voiture, en appuyant sur un bouton par hasard pour chercher une chaîne de radio. Je tombe sur cette prière dont j'ignorais complètement l'existence, et j'entends ça. Je ne sais pas à quoi le comparer. Je crois que c'est comme si on faisait écouter à quelqu'un qui déteste ça du rap pendant toute sa vie et que tout à coup on lui fait écouter les Requiem de Mozart. Voilà. C'est la louange. Le chant de louange des anges au ciel, voilà, j'entends ça. Et je me suis dit à ce moment-là, il faut absolument que j'apprenne à prier ce chapelet. J'en ai un à la maison, ça tombe bien. J'apprends cette prière et je vais à Lourdes.
Celui dont vous espériez.
Voilà, celui-là même, qui était au fond d'un tiroir. Donc, j'ai même pas eu besoin d'en acheter un. Par contre, j'ai acheté un petit livret pour savoir, et puis j'ai appris. Hein. Et alors, me voilà à Lourdes devant la Vierge. Alors évidemment, je prie. Alors, j'ai même pas tout à fait dit à mon épouse ce qui s'était passé, parce que vous allez voir, c'est assez incroyable. Terminant la prière, je range le chapelet dans sa boîte, je regarde la statue de la Vierge et je vois qu'elle est brillante, mais luminescente. Et alors, comme vous l'avez dit, je suis architecte, donc j'ai une formation à la fois littéraire et scientifique. Mais donc le côté scientifique prend le dessus en disant, mais c'est pas possible que la Vierge soit lumineuse, il y a un soleil merveilleux, il y a une luminosité extraordinaire, ça peut pas briller comme ça, voilà. Et là, tout à coup, sans que je comprenne ce qui se passe, je me trouve bien plus qu'à genoux, Marie, je me trouve au sol, tombé comme si mes jambes étaient tout à coup mortes. Et alors là, je tombe, Et alors, c'est assez amusant parce qu'il y a un mélange d'un sentiment de bonheur, un sentiment de crainte profonde, vraiment quelque chose qui me fait très peur, parce que je suis très surpris, et en même temps de colère. Alors, je ne l'explique pas, cette colère, dans le livre, parce qu'on ne peut pas tout dire. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Des gens viennent me secourir pour me relever. Évidemment, ils ne parviennent pas, parce que mes jambes sont mortes. Donc, ils me prennent par le dessous des bras. Je retombe aussitôt. Et j'entends des gens qui disent « Ah, mais bon, monsieur, si vous venez à Lourdes parce que vous avez des problèmes d'arthrose aux jambes, etc. » Et dans ma tête, évidemment, je suis en colère. Je me dis « Mais quelle bande d'imbéciles, je suis en pleine forme. Je suis un ancien moniteur de boxe française. Je fais 10 km de jogging 3 fois par semaine. Et on vient me dire que je tiens plus sur mes jambes. » Mais effectivement, je ne tiens plus sur mes jambes. Et là, je reste comme ça, je ne sais pas combien de temps. Et j'ai l'image de la Vierge, enfin du moins de la... Pas la Vierge elle-même, mais la statue de la Vierge. Voilà. Et je vois cette statue, je suis dans une espèce de béatitude que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Et là, à un moment donné, ben finalement, mes jambes reprennent force et je rentre dans la chambre d'hôtel que nous avions pris avec ma femme et ma fille. Et je n'ose même pas raconter ça parce que je me suis dit, bon, le coup des Martiens à Antibes, ça va. La Vierge Marie à Lourdes, on va m'envoyer chez MC.
Qu'est-ce que c'était que ce signe à Lourdes que vous avez reçu alors ?
Écoutez,
pourquoi ces jambes ?
Voilà, sur le coup, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je suis allé consulter un médecin, un psychiatre. Bon, il s'avère que j'avais ni pathologie physiologique ni psychiatrique. Et donc, j'en parle avec des amis qui ont la foi et puis qui me disent, alors, une expression que je n'avais jamais entendue de ma vie. Bah, écoutez, c'est le repos dans l'esprit. Ah bon? Et là, je commence à me renseigner, à lire, et puis je demande à un prêtre qui me donne quelques indications bibliques, et je trouve effectivement dans la Bible des exemples de personnes. Alors, l'exemple le plus connu, c'est celui des disciples qui suivent le Christ, et le Christ qui change de, comment dire, qui devient brillant. Et alors c'est étrange parce que c'est la même chose que j'ai, enfin toute proportion gardée bien entendu, de ce que j'ai vu sur la statue de la Vierge de Lourdes, donc cette espèce de luminescence, et il tombe face contre terre, voilà.
De la Vierge Marie.
Il tombe face contre terre. Mmh. Et là bon, je demande à un autre prêtre et qui me dit oui, c'est ça s'appelle le repos dans l'esprit. Donc vous avez été touché par l'Esprit Saint. Là je vous avoue que je me suis vraiment posé des questions. Et quelqu'un m'a dit, tu devrais faire une retraite. Et voilà comment je me trouve devant l'abbaye de la Grâce, dans l'Aude. Et je savais pas du tout ce qu'était une retraite. Enfin, moi, pour moi, ça remontait. J'avais pratiquement 60 ans. Donc, 50 ans en arrière, ma communion, c'était loin. D'autant que j'avais, comme on dit, bachoté, hein, tout ça. C'était juste pour avoir des cadeaux à la communion. Et donc, voilà que je me retrouve dans ma cellule. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Je vois le crucifix. J'ai été transpercé par un sentiment d'amour que je ressentais pour le Christ et un sentiment d'amour que j'ai ressenti de sa part. Je suis tombé à genoux et moi, à qui on a appris à ne jamais pleurer, j'ai fondu en larmes devant l'amour du Christ. Et en vous en parlant là maintenant, c'est encore le cas. J'ai encore les larmes aux yeux.
Effectivement, vous racontez dans votre livre que vous avez que ce don des larmes vous est donné en abondance, vous qui aviez été élevé effectivement dans une tradition où les hommes ne pleurent pas. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à partir de ce moment-là, vous êtes catholique vraiment entièrement et vous quittez donc
Oui, je crois que c'est une conversion, je dirais, fulgurante et ce jour-là, j'ai décidé d'abandonner la franc-maçonnerie au point que, au cours de cette retraite, un frère m'a proposé de rencontrer un prêtre. Moi, je ne savais même pas dans quel objectif. Et donc, j'ai accepté et j'ai donc rencontré le prêtre qui a écrit la préface de mon premier livre, qui s'appelle le Père Michel, à qui j'ai dit d'emblée, voilà, mon père, il faut que je vous avoue, je suis franc-maçon. Et il m'a dit, je m'en doutais. Voilà. Et donc, ce jour-là, j'ai pris la décision de quitter la franc-maçonnerie. Bon, ça a mis quelques temps parce que j'ai quand même essayé d'évangéliser. Parce que quand vous trouvez un trésor, vous le partagez. Puis ces gens-là, moi, j'ai pas d'animosité envers les francs-maçons, ni à l'époque, ni aujourd'hui. Donc, je me suis dit, il faut que je leur parle de Dieu. Mais quand j'ai commencé à parler de Dieu, j'ai vu les visages se renfrogner. Donc j'ai compris que ma place n'était plus là, et puis j'en ai parlé à ce prêtre qui m'a dit, vous savez, pour qu'on vous entende, il faut qu'on vous écoute. Et c'est vrai qu'on ne m'a pas écouté.
Alors, vous racontez dans votre livre que donc vous êtes passé, c'est un changement radical, parce que vous êtes passé de Lucifer, parce que pour vous, c'est
la franc-maçonnerie,
en fait, c'est le service de Lucifer. Vous êtes passé de l'ange de lumière tombée, déchue, au Christ, et vous racontez que cela ne se fait pas sans sacrifice ni combat, parce que vos anciens frères francs-maçons vous tournent très vite le dos, et même pour certains, vous persécutent, vous perdez argent, position sociale. Et même en fin de compte, vous tombez gravement malade. Est-ce que vous comprenez tout cela ?
Je mets du temps, bien entendu, parce que je ne m'y attendais pas à ce point-là. Il est vrai que, d'une part, tous les frères et toutes les sœurs que j'ai pu connaître en franc-maçonnerie et dont certains étaient des amis intimes. M'ont tourné le dos et me tournent le dos toujours, hein. C'est-à-dire que quand je les croise dans Narbonne, qui est une petite ville, donc forcément je les rencontre, eh bien ils tournent la tête, faisant semblant de ne pas m'avoir vu. C'est une attitude que je ne comprends pas, mais c'est comme ça. J'ai reçu un témoignage dernièrement d'un ancien franc-maçon qui vit la même chose. Ça n'est pas le cas de tous les anciens francs-maçons, mais par contre, on ne pardonne pas à ceux qui écrivent ou ceux qui parlent, voilà. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vous savez, quand vous êtes franc-maçon, vous avez des contacts à peu près partout. Donc si j'ai besoin à l'époque de quelque chose, il suffit d'un coup de téléphone, il y a toujours un frère ou une sœur quelque part qui peut me rendre service dans une administration, voilà. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ça ne me gêne pas plus que ça, d'ailleurs. Je m'en passe. Et le troisième point, c'est que, crime de lèse-majesté, j'ai dénoncé des marchés publics truqués dans le cadre, j'ai découvert ça dans le cadre de mes fonctions de direction à l'époque, et se trouve que j'ai fait l'objet d'une persécution de la part d'un groupe, on va dire, politico-maçonnique.
Vous n'en voulez pas au Seigneur de vous envoyer, en quelque sorte, toutes ces épreuves, cette persécution, et puis cette maladie aussi, après, alors même que vous le servez désormais, que vous êtes son ami.
Mais écoutez, à une époque, oui. À une époque, j'ai été un petit peu en colère après lui, en lui disant comment. Et puis j'ai lu Job, un peu, et voilà. Et puis, pardonnez-moi, je ne trouve plus le terme, convaincu. Voilà, je suis foncièrement convaincu que la souffrance est rédemptrice. Voilà, le seul moyen, la seule réponse à apporter au mal, c'est bien d'offrir de l'amour. Et bien entendu, il ne faut pas rechercher la souffrance, ça n'est pas un objectif. Mais ce qui est important, c'est l'espérance malgré la souffrance. Autrement dit, aujourd'hui, je suis dans une situation, vous l'avez dit, difficile sur le plan de ma santé. J'ai une maladie qui est non seulement mortelle, mais incurable. Je ne connais pas mon échéance. Eh bien, écoutez, pour ceux qui qui écouteront votre interview, je peux le dire du fond du cœur, je suis heureux dans l'amour de Marie et dans l'amour du Christ. C'est incroyable pour quelqu'un qui n'a pas la foi. Voilà. Je suis insubmersible.
Ah oui, effectivement.
Voilà.
C'est très beau. Et en quoi, du coup, toute cette conversion vous a-t-elle transformé ? Comment êtes-vous par rapport au Serge Abad Gallardo ?
Alors déjà, il y a une chose, c'est que mon épouse, quand elle m'a rencontré, j'étais l'autre, j'étais celui d'avant, et je suis d'une fidélité exemplaire depuis. Je ne l'ai jamais trompé, mais j'aurais pu. C'est vrai, si j'avais continué à mener la vie que je menais avant, donc. Je crois dans le mariage, alors même qu'en franc-maçonnerie, vous avez une cérémonie qui est une sorte de mimique du mariage qui s'appelle la reconnaissance conjugale, où on dit les époux se reconnaissent jusqu'au jour où ils n'en voudront plus. Vous voyez, le divorce est déjà instauré alors même que vous prêtez serment d'amour. Bien non, moi je crois maintenant au sacrement du mariage devant Dieu. Voilà, et mon épouse est bien entendu de mon avis. Donc c'est un grand bonheur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'à l'époque, je gagnais très bien ma vie, je disposais d'une villa de fonction, je roulais dans une voiture, alors je dirais pas la marque, mais j'avais une voiture de sport allemande de marque fort connue. Mon épouse avait sa petite voiture de sport également. Enfin, nous avions tout sur le plan matériel, que tout ce que l'on peut espérer. Hein. Même sans être riche, nous étions très à l'aise. Aujourd'hui, je n'ai plus rien de tout ça. Mais j'ai un bonheur aujourd'hui qui est sans aucune mesure avec ce que je vivais à l'époque. Voilà. Pour résumer, j'ai vécu l'initiation maçonnique et j'ai vécu et je continue à vivre la grâce de Dieu. Voilà. L'initiation maçonnique, quand on vous donne la lumière, c'est une petite ampoule à côté de l'explosion nucléaire qu'est l'amour de Dieu. Voilà.
Alors, quel conseil vous pourriez donner à un catholique qui serait tenté de rejoindre la
Alors déjà, s'il s'agit de quelqu'un qui est catholique, foncièrement catholique, et non pas quelqu'un qui est simplement baptisé, je parle de quelqu'un qui croit, quelqu'un qui pratique, surtout de ne pas y aller, parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui étaient profondément catholiques et qui sont rentrées en franc-maçonnerie après avoir cru aux mensonges maçonniques, ont quitté l'Église. Ça, c'est une constante. Ça n'est pas seulement moi qui le dis, c'est un certain Ricardo de la Sierva, qui est un écrivain espagnol, qui a été ministre, qui était historien, donc c'est un spécialiste espagnol de la franc-maçonnerie, qui dit « la franc-maçonnerie est une religion apostatique », c'est-à-dire qu'elle apostatise de toutes les autres religions. Donc surtout ne pas mettre les pieds en franc-maçonnerie lorsqu'on est catholique ou même chrétien. Ensuite, même si on n'est pas catholique, pratiquant, même si on n'a pas la foi, je ne pense pas que la franc-maçonnerie soit le chemin qui permettra de répondre aux attentes de la plupart des gens. Voilà, c'est une impasse. On voit régulièrement les anciens, c'est-à-dire les maîtres, tous ceux qui ont de l'expérience, tenter de se servir des jeunes apprentis en leur faisant miroiter entre les lignes des progressions initiatiques, des postes d'officiers. Alors, c'est pas dit comme ça, bien entendu, ça n'est pas aussi abrupt parce que la franc-maçonnerie est très subtile, mais il y a cette ambiance. Voilà, je ne veux pas jurer que l'agent immobilier qui m'a contacté pour entrer en franc-maçonnerie avait des idées derrière la tête concernant l'entrée en maçonnerie de quelqu'un qui était directeur d'un service de l'urbanisme. Mais comme par hasard, nous étions dans des contextes professionnels à la fois similaires, mais qui surtout pouvaient lui permettre de le servir. Voilà. Donc ça existe. Donc même si on n'est pas croyant, je pense pas que la franc-maçonnerie soit un endroit qui permette, de se réaliser, contrairement à tout ce qui est dit sur les différents sites officiels des différentes obédiences.
Est-ce qu'il y a un livre que vous pourriez nous conseiller qui vous a rejoint dans votre conversion, qui l'a soit préparé
oui, bien
ou
sûr.
Soit en profondeur ?
Mais écoutez, c'est un livre que j'ai commencé à lire et que je relis régulièrement, qui n'est pas lié directement à la franc-maçonnerie, mais qui m'a beaucoup aidé. Tout simplement, l'histoire d'une âme, les manuscrits autobiographiques de Sainte Thérèse de Lisieux. J'explique dans mon livre que Sainte Thérèse de Lisieux m'a appris à faire oraison. C'est pareil, je ne savais pas du tout ce qu'était faire oraison. Et j'ai appris ça. Voilà, Thérèse est une très, très grande sainte. Et donc, Histoire d'une âme, les textes de Thérèse de Lisieux sont très importants sur le chemin de la foi. Parce qu'en plus, Thérèse ne fait pas de prosélytisme. Elle est d'une discrétion. Elle est proche de Dieu. Elle est proche du silence de Dieu quand elle vous parle. Et elle vous transforme. Sans vous dire que vous devez croire, c'est ça qui est extraordinaire chez cette sainte. Son regard, simplement, elle inspire la sérénité, la sagesse et la bonté.
Alors, pour la fin de cet entretien, je vous ai demandé d'avoir avec vous votre prière préférée ou alors celle qui vous a accompagné durant cette période. Est-ce que vous pouvez nous dire
oui, bien entendu. Alors, bon, c'est classique, hein, mais en même temps, ça n'est pas surprenant. Vu mon parcours, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois que c'est la plus belle prière avec le Notre Père.
Et la toute dernière question, c'est qu'est-ce, si vous aviez le Seigneur en face de vous là à cet instant même, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de votre parcours de vie,
Ah
de
mais
cette
écoutez, je n'y ai
conversion?
pas vraiment pensé, mais je pense que ça ne va pas tarder. Enfin, espérons qu'il me donne encore un petit peu de vie, parce que j'ai encore quelques livres à écrire pour sa gloire. Mais je crois que je tomberai à genoux et je lui dirai je t'aime, tout simplement, avec vraiment du fond du cœur et avec beaucoup de larmes sur ses pieds bénis.
Eh bien, un grand merci Serge Abad Galliardo pour ce témoignage
Merci,
très
merci à
touchant.
vous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, que Marie vous bénisse.
Merci de nous avoir écoutés. J'ai été très heureuse de recevoir Serge Abad Galliardo et je le remercie de nous avoir partagé ces moments si chargés en émotions qui nous ont fait toucher le ciel du doigt. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés et encouragés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts d'EFC. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcasts, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.
Un de vos proches se marie bientôt? Offrez aux jeunes mariés un abonnement d'un an à Famille Chrétienne pour 85 euros seulement. Famille Chrétienne accompagnera au quotidien les jeunes mariés dans leur vie de foi et vie de famille. Ils recevront chaque semaine le magazine Famille Chrétienne et auront accès à nos milliers d'articles en ligne, aux podcasts, aux vidéos ou encore à une newsletter spéciale couple. Pour les abonnés, rendez-vous sur boutique.famillechrétienne.fr.